Bonjour à tous pour ce deuxième podcast d'Allo Allo Mercure. Donc la dernière fois, nous avions fait le premier podcast avec le séminaire de Mercure. Et donc pour cette deuxième édition, ce sera sur les séminaires de Vénus qui va sortir très prochainement. Je laisse la parole à ma maman.
Bonjour à tous. Mais d'abord, je dois vous dire que je suis moins stressée que la première fois. Bon, j'espère que je vais un peu moins bafouillé aujourd'hui. Donc voilà, je voudrais vous présenter le séminaire sur Vénus. Pour ceux qui auraient un mental plus auditif que visuel, j'ai envie d'être un petit peu plus précise sur le contenu du séminaire. Donc, voilà comment j'ai procédé. Il fait un peu moins de 100 pages, 94 ou 95, il est donc assez dense. Je fais toujours c'est toujours la même disposition. Sur Vénus, là, je vois qu'il y a 9 chapitres qui encadrent une introduction et une conclusion. Dans l'introduction, j'étudie bien sûr Vénus en astronomie, Vénus en mythologie, c'est très important, Vénus en astrologie traditionnelle, Vénus planète du taureau et de la balance, Vénus et le plan médical, et j'insiste beaucoup cette fois sur la physiopathologie, et puis Vénus en lithothérapie. Ensuite, dans le chapitre 1, j'étudie Vénus quand elle est dominante. Dans le chapitre 2, j'aborde le symbolisme de Vénus en astrologie humaniste. Et là, j'ai trouvé un lien très important à faire dans les 4 niveaux d'interprétation de Vénus, parce que j'ai remarqué que les Grecs avaient 4 mots, justement, également 4, pour désigner l'amour. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant puisque ils ont la Vénus Porneia qui correspond tout à fait à la Vénus biologique dans l'astrologie humaniste. Ils ont ensuite la Vénus Eros, enfin le mot Eros pour désigner notre plan de Vénus qui peut tout à fait correspondre à celle qu'on ressent au niveau social et culturel. Ils ont la Vénus Philia qui est plutôt celle qui correspond à la Vénus niveau individuel, et ils ont Agapé que tout le monde connaît, enfin que beaucoup connaissent ici, qui est plutôt l'amour spirituel. Et j'ai trouvé que ce lien, 4 d'un côté, 4 de l'autre, était tout à fait intéressant. Dans le chapitre 3, j'étudie, comme pour Mercure, les 4 Vénus dont on dispose, selon que Vénus se lève avant ou après le Soleil. Donc on a les 4 mêmes distinctions, mais cette fois avec une Vénus Lucifer directe ou une Lucifer rétrograde, et une Hespérus directe et une Hespérus rétrograde. Et puis, bon, c'est assez copieux déjà, je propose un quiz numéro 1 avec 10 questions. Ensuite, j'étudie bien sûr Vénus en signe, c'est le chapitre 4. Vénus en maison, c'est le chapitre 5. Le dialogue de Vénus avec le reste du thème, c'est le chapitre 6. Et là, j'insiste beaucoup, je crois qu'il y a 3 pages, sur le lien entre Vénus et Mars. Évidemment, c'est l'un des liens les plus importants. Et à la suite de ce chapitre 6, eh bien, je vous propose de travailler en vous demandant de monter 3 thèmes, qui sont les thèmes de Jean Cocteau, d'Alain Fournier et de Marie-Noël. Je vous donne les coordonnées natales, vous montez le thème et je vous propose 6 ou 7 questions pour vous diriger un petit peu dans l'interprétation que vous pouvez faire de la Vénus chez ces 3 personnages. Ensuite, chapitre 7, je l'ai intitulé « Naître avec Vénus rétrograde ». J'y ai consacré 5 pages et avec 2 exemples de thèmes de personnes qui sont nées avec une Vénus directe et qui, tout d'un coup, au milieu de leur vie, se retrouvent pendant 25 ans avec une Vénus rétrograde. Vous verrez, il y a forcément des conséquences sur le plan affectif, relationnel, et c'est assez intéressant. Un petit chapitre 8 sur le lien entre Soleil, Mercure et Vénus, et là j'ai voulu rendre hommage à Christian Droyer, c'est lui qui en parle, en expliquant la différence entre le luminaire et ses 2 serviteurs que sont Mercure et Vénus, selon leur emplacement, quel est le premier, quel est celui qui est au centre, quel est le troisième. Voilà, merci Christian, je reporte ce que tu expliques dans ton livre, sur l'astrologie de la guérison. Et puis j'ai ajouté un chapitre 9 avec Vénus en synastrie, j'y ai consacré 8 pages, c'est assez important. Et puis voilà, dans la conclusion, bien sûr, je vous propose la correction des 3 thèmes que j'ai proposés au milieu, de Cocteau, Alain Fournier, Marie-Noël. Et puis, je termine toujours par le test de connaissance avec 20 questions qui sont posées sur 2 pages et les réponses détaillées également sur 2 pages. Voilà, j'étais un petit peu longue, mais je trouvais important de vous expliquer... ma conduite, ce sera la même d'ailleurs pour tous les séminaires. C'était déjà comme ça pour Mercure et ce sera comme ça pour tous les séminaires qui suivront. Voilà, cette fois je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vais passer la parole à Jean-Noël et j'aimerais bien qu'il nous parle de quelque chose. On discute beaucoup ensemble forcément. Et hier, il m'a parlé de cette Vénus en mythologie. Je l'ai trouvé passionnant et je vous propose de l'écouter.
Alors, donc, merci maman pour le descriptif de ce séminaire sur Vénus. Un descriptif que je qualifierais d'aussi dense et exhaustif que le séminaire lui-même. Donc, je pense que nos auditrices et nos auditeurs... auront une vision en tout cas claire et complète du contenu de ce séminaire. Alors effectivement, j'ai terminé donc la lecture de ce séminaire sur Vénus, que j'ai trouvé tout aussi passionnant et complet que celui sur Mercure. J'ai eu plusieurs réflexions et puis ça m'a fait penser aussi à différentes choses. Alors j'ai notamment repensé donc à un des grands livres écrits par Freud en 1915, notamment Pulsion et Destin des Pulsions. Donc voilà un livre, je dirais, vraiment qui est la base de l'explication des pulsions dans le domaine psychanalytique, avec les 3 critères d'une pulsion. Il y a la source de la pulsion, son but et son objet. Et à travers cette description que Freud nous fait des pulsions, alors qu'il appellera plus tard d'ailleurs notamment les pulsions de vie, il nous explique un petit peu la diversité, la pluralité des pulsions. Et c'est le lien, l'association que j'ai faite avec justement, maman, la façon dont tu parles de Vénus dans ce séminaire, puisque tu parles, alors tu l'as très bien dit tout à l'heure, de Vénus Hespérus et Vénus Lucifer, et aussi justement à chaque fois Vénus directe ou rétrograde, donc ce qui nous amène effectivement à 4
comportements.
4 comportements, voilà, 4 manifestations, 4 façons en tout cas, 4 fonctionnements et façons de s'exprimer de Vénus, et ça nous rappelle effectivement qu'il n'y a pas qu'une Vénus, il y a une Vénus mais avec différents fonctionnements, voilà. Et donc il est important d'interpréter déjà indépendamment. Alors bien sûr ensuite c'est une interprétation qui doit se nuancer, s'affiner avec le reste du thème, en éléments, en signes, en maisons et en aspect. Donc voilà, c'était déjà cette première association que je voulais évoquer. Et puis ensuite, donc à nouveau, tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu nous parles donc de Vénus dans les différentes mythologies. Alors tu cites la mythologie babylonienne, sumérienne, la mythologie grecque, la mythologie romaine. Et notamment à un moment, tu nous dis que voilà, selon certaines traditions mythologiques, Vénus n'est pas associée uniquement qu'à l'amour, mais aussi à une certaine dimension belliqueuse. Et dans ce séminaire, tu expliques que voilà, c'est pas en tout cas quelque chose à quoi tu adhères. Voilà, je pense qu'il y a notre regard, en tout cas d'occidentaux, ce qui me semble tout à fait normal. Et justement, cette dimension-là, elle m'a beaucoup interpellé, parce que sur le principe, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors après, dans les différentes visions que l'on a du monde, dans une vision binaire, on peut difficilement faire cohabiter deux positions qui pourraient être diamétrales, qui pourraient en tout cas être diamétralement opposées, ou qui pourraient le sembler. Pour moi, qui n'ai pas une vision binaire du monde, je peux très bien faire cohabiter des positions très différentes. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une position que je défends qui est la tienne. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'associe effectivement, en tout cas dans mon regard d'occidental, la dimension de l'amour à Vénus. Et en même temps, je me suis posé la question et je me suis demandé, est-ce que finalement, on ne pourrait pas y avoir, après tout, pourquoi pas, une Vénus belliqueuse, ou en tout cas un fonctionnement spécifique, original de Vénus, qui pourrait être belliqueux. Alors toujours dans la tradition, dans le regard occidental, c'est vrai que Vénus, on l'associe au féminin, de la même façon que Mars est associé au masculin. Et j'essayais de réfléchir, tiens, justement, est-ce que y a pas dans l'histoire de l'humanité des images, des avatars, des représentations de féminin, on va dire belliqueux, ou en tout cas que je préfère qualifier de guerrier.
Ah, tu me fais penser aux Amazones. Oui, bien sûr.
Et
Oui.
effectivement, alors tout le monde connaît les Amazones. Je pense aussi, alors dans la tradition japonaise, alors que je connais de façon assez légère, mais que je connais un petit peu pour différentes raisons personnelles, pour avoir voyagé au Japon et pour avoir une amie japonaise et pour pratiquer aussi un art spirituel et martial japonais. Donc un personnage en fait qui s'appelle Tomoe Gozen, donc là on revient à 10 siècles en arrière, et qui est un des grands archétypes en tout cas de la femme samouraï guerrière. Donc ça, c'est pour la tradition, en tout cas dans la civilisation, dans la culture japonaise. Je pense aussi à différentes traditions, alors chez les Apaches, aussi en Afrique, hein, dans certaines cultures, dans certains pays africains, avec là aussi des femmes guerrières. Je pense également à la mythologie nordique, bien entendu, notamment la déesse Freya, qui est un petit peu l'équivalent de Odin, alors qui est la déesse justement de l'amour dans la mythologie nordique, et qui est voilà, qui en analogie, qui correspond un petit peu à la représentation que l'on a de Vénus, hein. C'est la déesse de l'amour, de la fertilité, pas que, c'est aussi la déesse, alors on l'associe en tout cas au sexe, à la luxure, à la beauté, à la sorcellerie, à l'or, à la guerre et à la mort. Rien que ça.
Oui, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une femme qui, voilà, passionnante, en tout cas dans la mythologie, dans la mythologie scandinave. Donc ça, c'est un premier point. Alors, je ne sais pas déjà, maman, toi, ce que ça t'évoque, justement, cette question de femme guerrière ou d'une dimension belliqueuse d'une Vénus.
J'adhère complètement de toute façon à ce que tu dis, bien sûr, mais ça me fait penser également à un point important que je n'ai pas souligné tout à l'heure, parce que je suis partie tout de suite sur Vénus amour, et en fait, la fonction principale de Vénus, c'est le sens des valeurs. Et forcément, le sens des valeurs, selon qu'il est attribué à un être humain, c'est l'amour, mais s'il est attribué à quelque chose de plus matériel, c'est l'argent et c'est ce sont les arts. Ça, c'est le point essentiel, et je l'avais complètement oublié tout à l'heure. Voilà, c'est le fait de faire un podcast de façon impromptue, il n'est pas préparé, et j'oublie l'essentiel.
C'est aussi ce qui le rend spontané, et c'est d'autant plus intéressant, je trouve.
Oui, c'est le ton d'ailleurs qu'on veut donner. Donc, forcément, tout ce que tu dis, oui, ça m'a fait penser à cet oubli, et ça m'a fait penser aussi que Vénus, c'est pas seulement l'amour. Ça me fait penser à aussi celle dont je parle dans mon chapitre sur la mythologie. Je crois que c'est chez les Babyloniens où il s'agit de Ishtar. Non, c'est pas les Babyloniens. Non, c'est chez les Sumériens où c'est Inanna qui est à la fois la déesse de l'amour et de la guerre et qui est décrite comme une déesse impitoyable qui pouvait tuer, y compris ses amants, bien sûr, une fois que il l'avait contentée, on va dire. Voilà.
Alors justement, ça me fait rebondir sur justement toute la question du symbole aussi, puisque là tu le rappelles très bien, c'est que on parle donc de Vénus sous la façon à la fois mythologique, mais aussi surtout symbolique, et que qui dit symbole dit polysémie.
Oh là, quel mot, explique-nous.
C'est-à-dire qu'effectivement il y a plusieurs sens, il y a plusieurs représentations, donc effectivement il y a l'amour. Ça, c'est un des sens, une des significations de Vénus, mais il y a aussi les arts.
Oui, oui.
Voilà,
oui.
Entre autres.
Et alors, ton mot polysémique, c'est ça ?
Polysémique.
Ah, sémique, donc sémique. Ça s'écrit S-E-M-I au milieu.
Voilà, c'est ça,
d'accord,
tout à fait.
D'accord, ok. Oui, oui. Polysémique. Oui. Non, je ne connaissais pas ce mot. Voilà, j'ai appris quelque chose. Merci.
et donc, effectivement, ça nous rappelle toujours que qui dit symbole dit pluralité et dit diversité.
Ouais.
Et donc, de toujours garder à l'esprit voilà, que Vénus, ce n'est pas au singulier, mais au pluriel. Et de voir, d'interpréter toujours Vénus de plusieurs façons différentes.
Oui, oui. Bien. Bah écoute, t'as été passionnant. Ah, t'as encore des choses à dire.
Moi aussi, j'allais oublier quelque chose. Et justement, puisque tu parlais à l'instant de cette déesse qui tuait ses amants, et alors toujours pour revenir sur cette dimension belliqueuse, ça me fait penser encore à une autre façon peut-être de voir les choses. Donc tout à l'heure, on a parlé de quatre manifestations différentes, en tout cas de Vénus. Et justement, la question que je me pose, c'est comment réagit une Vénus qui est blessée ?
Ah oui !
Et là, effectivement...
Là, tu es dans ton domaine de psy.
oui, après, c'est... Voilà, c'est plus peut-être une réflexion plutonienne. Et je me disais, une Vénus qui est blessée, une Vénus comme n'importe quelle autre planète, et son énergie d'ailleurs, comment réagit une énergie qui est blessée ? Et donc là, en ce qui nous concerne dans ce séminaire, l'énergie de Vénus, et voilà comment pourrait réagir peut-être une Vénus Lucifer directe ou rétrograde, une Vénus Hespérus directe ou rétrograde, quand elle est blessée, et que dans ces différentes manifestations, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir justement une façon de se défendre, de contre-attaquer de façon belliqueuse ? Pourquoi pas ?
Oui, et c'est très intéressant, et ça laisse justement la porte ouverte à une nouvelle étude. Oui, c'est on n'a jamais fini, hein. Et moi, avec ma lune noire en 5, quand j'ai fait quelque chose, je pense déjà à ce que j'aurais encore pu dire. Et bon, c'est très bien de toute façon d'avoir de savoir que rien n'est jamais fini et qu'on peut toujours rebondir sur une nouvelle subtilité. Quand tu parles de Vénus blessée, moi j'ai effectivement tout de suite pensé à la surcompensation, mais bon, je ne suis pas psy, voilà, peut-être un nouveau chapitre à ajouter plus tard à cette Vénus. Ouais.
C'est en tout cas une... J'aime bien penser cette articulation entre... entre la douceur que l'on peut associer justement aussi à l'amour. Alors après, l'amour là aussi peut se décliner, je pense, de différentes façons. Et puis à son presque un antagonisme, c'est-à-dire à tout ce
Oui.
qui pourrait être dur ou violent. Alors je repense à un film que j'ai adoré dans les années 90 avec l'acteur Mark Dacascos. Donc c'est le film, le titre en tout cas du film en anglais, c'était The Crying Freeman. Alors de mémoire, c'était un film qui était franco-américano et japonais aussi. Donc voilà, une réalisation pluriculturelle. Et donc ce film nous parle en fait d'une rencontre entre une peintre qui est témoin d'un assassinat par un tueur professionnel donc japonais, donc un tueur de sang-froid vraiment qui tue en fait au sens de l'art presque, un petit peu comme les grands samouraïs japonais à l'époque. Et donc dans ce film, The Crying Freeman, donc l'homme libre littéralement qui pleure, il avait cette particularité, c'est qu'à chaque fois qu'il tuait quelqu'un, qu'il était missionné, en tout cas pour tuer quelqu'un, il versait une larme. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a à la fois la vie, la mort, la douceur, la dureté, on a tous les extrêmes qui se mélangent. Et il y a ce raffinement, cette élégance dans la façon dont il tue. Et je pensais, ben, là encore, voilà, qui dit balance, dit raffinement, classe. Et que peut-être que, toujours pour revenir sur cette dimension belliqueuse, s'il y avait une manifestation belliqueuse de Vénus, je pense qu'elle le serait avec l'énergie de Vénus, c'est-à-dire tuer avec classe, avec raffinement, avec élégance. Pourquoi pas? En tout cas, je trouve que c'est une réflexion aussi intéressante. Alors, on a vraiment hâte, maman et moi, de lire vos commentaires quand on aura donc mis en ligne ce podcast et de voilà d'avoir vos retours, vos opinions sur tout ce qu'on vient de dire.
Oui, et pour le mot de la fin, ben j'avais prévu de vous parler d'un point, d'un paragraphe particulier pour vous expliquer comment je parle d'une Vénus dans un signe, mais je pense que la conversation, elle a été élevée et que je n'ai pas envie de retomber dans un côté terre à terre. Donc, ben non, je ne ferai pas je vous raconterai pas ce que j'avais prévu de vous dire, par exemple, sur cette Vénus Sagittaire. Je préfère rester sur les mots de Jean-Noël, que je remercie encore parce qu'il me pousse vraiment en avant. J'ai oublié de le remercier la dernière fois sur l'investissement qu'il met dans la relecture de tout ce que j'écris. Il retrouve des coquilles et on en retrouvera même encore plus tard parce que c'est pas possible autrement. Mais vraiment, je voudrais rester sur tout ce qu'il vient de dire. C'est d'un niveau assez élevé et je le remercie. Et moi, voilà, il y a 23 minutes de podcast. C'est beaucoup plus long qu'on ne croyait au départ. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à Jean-Noël pour tout ce qu'il fait et de m'aider, voilà, dans la diffusion de ce qui est une passion pour moi. Merci.
Alors, élevé, j'irai pas jusque-là. Et puis, ben, sans tout le travail que tu fais, voilà, ça, j'aurais pas toutes ces réflexions-là. Donc, ces réflexions-là, elles viennent grâce à toi. Je m'excuse aussi auprès de nos auditeurs et de nos auditrices parce que, alors, il faut savoir que de mon côté, j'ai absolument rien en vierge. J'ai pas vraiment de terre. Donc,
Non, t'en as même pas du tout, je crois.
c'est ça.
Non, t'as que ton milieu du ciel, c'est tout, c'est peu.
Voilà, et donc j'ai tendance à partir très facilement dans tous les sens. Alors pour moi, c'est du kiff. Pour les gens en général, dans mon entourage, c'est pas toujours aussi facile. Et donc voilà. Heureusement que ma mère est là pour recadrer aussi un petit peu les choses, parce que on peut pas toujours partir dans tous les sens.
Mais c'est aussi une façon de se compléter, parce que moi, au contraire, j'ai Mercure en Capricorne et j'ai une maison 6 en Vierge.
Voilà.
Alors imaginez-vous que chez moi, c'est plutôt très, très, très organisé.
Et donc, forcément, par la force des choses, je bouscule pas mal ma pauvre maman. Donc voilà, fils indigne que je suis. Donc,
Oh là
donc voilà.
là. Eh ben, merci à vous tous.
Merci,
Et
oui.
à bientôt.
Merci à tout le monde pour votre écoute et encore une fois, on a hâte d'avoir vos retours. Donc merci à vous pour votre écoute et puis au plaisir de nous retrouver dans un podcast prochain.
Et bien sûr, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Au revoir.
Au revoir.